Merci beaucoup, Marilyn. Je trouve qu'elle le fait super bien. On peut l'encourager, s'il vous plaît. Je crois que ce qu'elle a fait, là, ce qu'elle vient de faire, elle a prophétisé sur moi. C'est-à-dire, elle a parlé des choses que Dieu veut faire et est en train de faire et veut continuer de faire. Et je le reçois. Je veux souhaiter une excellente fête des Pères à chacun ici, présent comme vous, qui nous écoutez par vidéo, par YouTube ici. Ma prière, c'est que vous fassiez de votre maison une représentation de la maison du Père. Que chacune de vos maisons soit une représentation de la maison du Père. En fait, la présence de Dieu, c'est une maison. Et celui qui préside à cette maison, celui qui habite cette maison, c'est un Père. Il se révèle comme un Père. Et lorsqu'il nous rencontre, il veut nous transformer. Alors, nous, les hommes, mais en fait, chacun est membre de sa famille pour vivre dans l'esprit d'adoption, pour vivre dans sa paternité. Et que chacune de nos maisons soit un reflet de cela. Et je vais juste commencer. Ma prédication, ce n'est pas sur la paternité, mais c'est une introduction qui va nous y conduire. Et je vais citer plusieurs versets. Dans ce sens, dans Éphésiens 6, 4, il nous est dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Élevez-les. Et pour moi, élever, c'est évidemment éduquer, mais c'est aussi élever, honorer, faire grandir. L'idée de, comme on élève Dieu, l'idée c'est de voir dans nos enfants ce qu'ils sont en Dieu, parce qu'on le fait selon Dieu. Et on veut les voir grandir à l'image de Dieu et devenir en fait nos pères, c'est-à-dire nos vis-à-vis. L'objectif d'un père, c'est de conduire un enfant à la maturité pour que lui-même devienne un père et aille même plus loin que nous. Et c'est ça, ça pour moi, c'est le reflet de la maison du père. Le père a pris son fils et il l'a élevé au-dessus de tout. Afin que tout genou fléchisse au nom de Jésus, d'accord ? Que toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Mais il a élevé au-dessus de tout. Il l'a placé dans les hauteurs. C'est le choix de Dieu que dans une maison qui le représente, il y ait de l'élévation, qu'on élève, qu'on soit là pour vraiment porter les enfants là où ils sont, quel que soit l'âge, mais les regarder selon le Seigneur, les instruire, les édifier, les construire pour qu'ils grandissent, qu'ils deviennent matures, autonomes et qu'ils soient libres. Dans Colossiens 3, 17, il nous est dit « Quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. » Vous savez, c'est une exhortation que les pères, mais même la femme, dans l'injonction à se soumettre, les enfants à obéir, c'est toujours dans le Seigneur. Une maison où chacun fait et vit son stade là où il est, dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Alléluia. Je voudrais juste qu'on fasse une pause pour se focaliser sur nos maisons, alors avec les enfants, même s'ils ne vivent pas chez nous, pour demander à ce que notre lignée soit une maison qui soit une représentation de la maison du Père. Et pour certains, ça peut être des situations douloureuses et difficiles, mais le vœu du Seigneur, l'œuvre qu'il a commencé en vous, c'est de faire de votre maison une représentation de la maison du Père. Il veut se servir de chacun. Ce n'est pas que le père en tant qu'individu, c'est toute une maison. Les enfants, s'ils obéissent dans le Seigneur. Si la femme, elle se soumet dans le Seigneur. Si le mari aime sa femme dans le Seigneur. Quand chacun est dans le Seigneur, on regarde ce que le Seigneur est dans chacun. Et ainsi, parce que nous nous regardons ainsi dans le Seigneur et que nous assumons ce que nous sommes, dans le Seigneur, nous représentons la maison du Père. La présence de Dieu grandit dans nos maisons quand nous vivons, nous agissons dans le Seigneur. Et imaginez chacun de nous dans le Seigneur. Il est père dans le Seigneur, il est mari dans le Seigneur, elle est femme dans le Seigneur, les enfants ici dans le Seigneur. Notre maison devient la maison de Dieu. Parce qu'il est plein et il remplit tout. Et je veux prier pour les rapports. Papa, enfant, enfant, papa, maman, mari, femme, je veux vous bénir au nom du Père. Je veux vous bénir au nom du Seigneur. Pour que vous soyez renouvelés dans cette vision de votre maison comme une représentation de la maison d'en haut. Et ça me fait penser à la parabole du fils prodigue, où le père guette dans la maison l'enfant qui revient. Il y a certainement des situations douloureuses où il y a des ruptures, de quelque ordre que ce soit. Le père guette et veut conduire les pères à guetter, à être dans l'espérance du retour. C'est une attitude de grâce et d'attendre avec enthousiasme le retour, dans la foi, le retour des fils prodigues. Alléluia. J'ai dit alléluia, mais pas comme ça, juste. J'ai dit alléluia au fond de mon cœur, donc alléluia. Ah, s'il vous plaît, alléluia. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est la réciprocité. Il y a des alléluia dans la Bible. Ça résume tout, hein. Alléluia dans la Bible, c'est aime Dieu de tout ton cœur. Mais il y a aussi allélon. Allélon, c'est les uns les autres. C'est la dimension verticale, alléluia. Mais pour résumer, si on veut résumer l'attente de Dieu à notre égard, il y a alléluia, puis il y a allélon. C'est-à-dire les uns les autres, la réciprocité. Et Dieu s'attend dans cette saison, d'ailleurs dans nos maisons, je vais commencer par cela, les pères cherchent aujourd'hui, Adèle, notre dernière fille, a 18 ans. Je peux vous dire, elle est précoce et quasiment adulte. Bon, il y a quelques points encore à corriger. Mais aujourd'hui, c'est une adulte. C'est mon enfant, mais c'est une adulte. Et Benjamin et Emma sont des adultes. On a passé le confinement et je peux vous garantir, je ne peux plus les traiter comme des enfants. J'entends immatures, mais j'ai été obligé d'agir envers eux comme des adultes. Et c'est l'intention d'une éducation. Un père qui traite ses enfants comme adultes, il est en train de les élever. Et on a vécu des moments où il a fallu que je change de posture. Ça vient me bousculer parce que ça faisait longtemps que Emma était partie, ça faisait longtemps que Benjamin était parti. Eh bien, papa, oui, d'accord, mais moi j'ai un autre point de vue. Ah, enfin, j'ai une autre approche, j'ai une autre sensibilité. Tu sais, de temps en temps, tu reprends des habitudes. T'sais, ils sont chez toi, donc t'es le papa un peu, machin. Je me suis fait recadrer, vous voyez ? Recadrer, pour dire, non, on est adulte aujourd'hui, on a un programme, tu comprends ? On a une vie, quoi. Parce que de temps en temps, comme ça, j'oublie. Et l'idée de les traiter comme cela, c'est du bonheur, parce que du coup, ça devient des vis-à-vis. Moi, je crois qu'il n'y a rien de plus fort qu'un papa qui devient ami de ses enfants. Où il y a une liberté, une confiance, une sécurité, on peut devenir vis-à-vis. C'est-à-dire, moi, dans ma posture, je suis ce que je suis. L'idée, c'est de les élever jusqu'à ce qu'on soit vis-à-vis. On soit des égaux. J'entends, on est égal. Mais l'idée, c'est que dans mon cœur, je vais les élever, les considérer ainsi. Ça libère un potentiel qui est phénoménal chez les enfants quand on les regarde comme des égaux. Le but de l'éducation, c'est d'élever jusqu'à ce qu'on puisse se regarder face à face. Vivre une vraie intimité. Je veux parler un tout petit peu de Alléluia, puis après je traiterai de Allélon. La Bible nous dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, c'est-à-dire Alléluia, je m'écris Alléluia, et je suis délivré de mes ennemis. Vous connaissez ça? C'est David qui dit ça. J'aimerais nous engager à dire, à confesser ensemble, je m'écris Allélon, je suis délivré de mes ennemis. Vous me suivez, vous allez comprendre ce que ça veut dire. C'est aussi puissant de vivre, de proclamer et de cultiver dans nos vies le Allélon, les uns avec les autres, de travailler à élever les autres pour en faire des vis-à-vis. Quand on rentre dans cette dimension, nous sommes délivrés, nous sommes transformés, nous vivons des victoires extraordinaires. Dites amen par la foi. Alors du coup, je vais citer quelques exemples pour moi. Ce qu'on vient de vivre avec l'église de Sète, c'est ça. Nous sommes en train d'annoncer que nous sommes une même église et nos ressources vont être partagées. On va les regarder comme des vis-à-vis. On va partager nos ressources. Vous savez que dimanche prochain, quand on va avoir nos baptêmes, le baptistère, il vient de Sète. Non, on peut applaudir, on peut applaudir. Je vais vous dire, on vit une culture où on est trop individualiste. La culture occidentale pousse à ce que tu sois évidemment indépendant, seul, ta liberté, une conception de la vie qui est très « je », moi, nous. On a conçu, et moi-même, par héritage, conçu cette église avec un « je, nous, nous ici ». Alors qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, parce que ce qui s'est passé pour la transmission ici, que toi ne prennes ça, mais pas seul, il prend avec les ressources de l'église clé, s'il vous plaît. Cette transformation, c'est de considérer l'autre comme un vis-à-vis et partager des ressources. En fait, le Seigneur nous a conduits dans tout un parcours pour se dire, mais il y a des ressources à clé qui peuvent être utilisées et partagées avec d'autres dans le but de les voir grandir, dans le but de les voir se développer, dans le but de les élever. Et je crois qu'il va y avoir une réciprocité, c'est-à-dire ce qu'on va donner va être semé et on va récolter, et ce qu'ils vont donner va être semé. Si nous grandissons ainsi et que notre conception du royaume de Dieu se transforme et qu'on regarde les autres comme des réciproques, des vis-à-vis, des personnes avec qui on peut recevoir et donner et qui a une grande sécurité, on va voir la gloire de Dieu venir. Ce qui va faire que toi ne va pas être seul. Vous savez, très souvent on dit, il faut un couple pastoral et puis que Dieu vous bénisse, débrouillez-vous. Non, on est ensemble jusqu'à ce qu'il y ait un plein développement. D'accord ? Et voir nous comme une mère, un père, partager des ressources et les voir s'élever et là-bas. Et je suis persuadé que de 7, on recevra. On va donner, mais on recevra. Et si l'Église grandit dans cette logique de vis-à-vis, d'avoir des relations de vis-à-vis, de face à face, de les considérer, de voir le potentiel qui est là, de les élever, on va voir la grâce de Dieu venir sur nous. J'aime beaucoup regarder des biographies, des films qui retracent la biographie. Soit parce que c'est un documentaire, soit parce que c'est un film. Et la dernière biographie que j'ai regardée, c'est celle de Michael Jordan. Qui c'est qui connaît ici Michael Jordan ? Pas personnellement, mais on a entendu parler de Michael Jordan. Vous savez qu'aux États-Unis, on dit, celui-là, il a réussi. Voici le Michael Jordan de l'automobile. Voici le Michael Jordan de l'informatique. C'est-à-dire qu'il est tellement une figure aux États-Unis parce que pendant 5 fois d'affilée, il a remporté avec les Chicago Bulls, là, donc son équipe, la NBA, c'est-à-dire le championnat national, chaque année pendant 5 années. J'ai regardé cela avec beaucoup de passion, mais il y a eu une chose, j'aimerais vraiment que vous écoutiez cela. Ce qui a fait qu'il a basculé avec son équipe et qu'ils ont gagné, vous savez c'est quoi ? C'est l'entraîneur qui lui a dit, Michael, tu es génial, tu es extraordinaire, mais cette équipe va gagner si tu développes les uns les autres. Cette équipe va gagner si tu considères la force des autres. Tu es tellement bon, toute l'équipe jouait pour lui. L'entraîneur lui dit, il arrive, il lui dit, tu veux que cette équipe gagne? Parce qu'il était frustré, il perdait, jusqu'au bout, il perdait. Le basculement, c'est que Michael se met à dire, je vais faire briller les autres. Je vais les regarder comme des vis-à-vis. Ils sont capables avec moi de gagner. Je peux utiliser mes forces pour les élever. Je vais les considérer comme capables de gagner. Donc ça veut dire que dans des matchs, mais de clés, au lieu de lui se débrouiller de gagner, c'est-à-dire que tout le monde venait le charger. Tout le monde venait, tu sais, les adversaires, tu disais, c'est lui qui fait que ça gagne, donc on va le bloquer au maximum. Il a trompé l'ennemi, les gens venaient vers lui, il a fait des passes clés qui a fait que l'équipe a gagné. Quand il a compris cela, 5 années de suite, ce qu'il ne pouvait réaliser seul, parce qu'il s'est mis à comprendre la puissance de Allelon. Les uns les autres, parce qu'on est ensemble, parce qu'on fait briller les autres, parce qu'on donne la passe. Vous savez, il n'y a rien de tel dans une équipe de sport co que les gens qui jouent solo. On dit perso, mais donne ta balle, ils jouent perso. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur est en train de nous dire, avec ce qu'on vit à 7 et partout ailleurs dans cette saison, donne ta balle, alléluia. Donne la balle, distribue-la. Parce que si tu arrives à comprendre cela, elle a distribué et à faire briller les autres et qu'eux gagnent, tu vas gagner, tu vas briller. Et en fait, Michael Jordan est devenu Michael Jordan parce qu'il a fait ça. Il a brillé encore plus fort. Pourquoi ? Parce qu'il il a compris la clé que c'est que la réciprocité, que de transmettre, de donner la balle, de faire briller, de chercher à ce qu'on soit ensemble, que ce soit les uns les autres. Et il y a des victoires, il y a des percées dans nos vies qui ne viennent que... Et moi, je m'attends, dans cette saison, je suis en prière, parce que ce que je suis en train de vous prêcher, je me le prêche d'abord à moi-même. Je me le prêche à moi-même. Et cette clé que je comprends, que je veux partager ici, et qui va déclencher des choses, en mon sens, dans notre vie d'église, s'ils sont utilisés, ça va ouvrir des limites que nous vivons aujourd'hui. Ça va nous permettre de gagner le MBA spirituel. Vous avez loupé une occasion là, s'il vous plaît. On va gagner ensemble, parce qu'on va développer une culture de les uns les autres. Et ça va nous conduire à considérer ce que la parole de Dieu dit dans cela. Et l'impact de l'évangile, pour moi, il dépend de Alléluia. Jésus dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde verra. Donc si nous arrivons à pratiquer, à vivre ce dont je suis en train de parler ce matin, ce qui est en nous, ce qui est au milieu de nous, la bonne nouvelle, la personne de Jésus va briller plus fort parce que c'est une équipe qui se déploie, qui apprend à distribuer la balle. Jésus a pratiqué cela et il nous est dit dans Matthieu 10, 24, 25, une chose qui est forte, dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. Nous sommes des disciples, nous sommes des serviteurs, et il dit, il nous suffit à nous de cibler, d'être traités à l'égal de notre maître. La préoccupation de Jésus, c'est d'élever ses disciples pour qu'ils soient traités, qu'ils soient considérés, qu'ils vivent comme si c'était Jésus lui-même. Sa préoccupation, c'est là la préoccupation d'un père, hein, c'est là la préoccupation d'un leader, hein, de travailler à ce que les autres soient traités comme. Il suffit, l'objectif que nous avons, c'est qu'à un moment donné, nous soyons formés, nous sommes enfants, nous allons grandir, devenir jeune homme, nous allons devenir père et être traités, vivre les mêmes choses que Jésus a vécu. Et la suite dit, eh ben, si vous êtes persécutés, si on vous traite comme des Belzébules, dans le sens où comme si vous êtes les princes des ténèbres, mais s'ils l'ont fait pour moi, ils le feront pour vous. Arriver à être traité comme Jésus, c'est-à-dire grandir jusqu'à lui ressembler. Il dit aussi dans Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Nous ne sommes pas juste des serviteurs, mais le Seigneur veut nous prendre, même si nous sommes encore enfants, il veut nous élever pour se considérer comme amis, comme vis-à-vis. Imaginez l'intention du Seigneur Jésus. Il ne faut pas que je bouge. D'accord. Ça me frustre parce que j'aime être avec vous, vous voyez. Mais imaginez Jésus qui veut, au lieu que tu te considères là, il t'élève et il veut que tu sois son ami. En fait, l'expression biblique, c'est qu'il veut nous parler face à face. Imaginez face à face avec Dieu. On connaît ces expressions, hein, mais imaginez face à face. Tu es mon ami, je t'élève à un... Tu n'es plus serviteur. Ils ont été serviteurs, ils ont été enfants. Mais à un moment donné, je t'élève à un niveau où je veux te partager tout comme si tu es mon ami. Une réciprocité. Tu lui partages, il te partage. Ça me fait penser dans l'Ancien Testament, je veux rien faire sans avoir partagé ce que je vais faire avec mon ami Abraham, vis-à-vis. Et le texte, vraiment magistral pour cela, Dieu parle de Moïse, il dit, c'est mon ami, et je lui parle face à face comme un homme parle à son ami. Imaginez, Dieu descend, et il vit une relation de vis-à-vis. Tu es mon ami, je te regarde comme ça et je te partage mon cœur. Ce qui fait que mon cœur est partagé, tu me partages le tien. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Moïse dit à Dieu, mais non, ça, faut pas que tu fasses ça. Ah bon? D'accord. Dieu change ses plans parce qu'il y a une relation de vis-à-vis. C'est pas juste dans un sens, Dieu qui montre. Lui, il partage son cœur, il dit, c'est ton peuple, tu peux pas faire ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah oui, Moïse, j'y avais pas pensé. Et je change d'avis, image de face à face. Le privilège que Dieu veut nous élever à un niveau pour avoir de la réciprocité avec nous. Non, je répète parce que je ne suis pas sûr que tout le monde a entendu ce que je suis en train de dire. Il veut nous élever à un rang où il veut avoir une relation de vis-à-vis, de face à face, comme un homme parle à son ami. Imaginez, je ne sais pas si vous avez des amis, hein, des vrais amis. Imaginez cette même relation avec Dieu. Avec Jésus, face à face, réciprocité, face à face. C'est là l'intention. Dieu le fait, Jésus le fait, Dieu le fait, et il veut nous introduire dans cette dimension. Et il nous appelle dans cette dimension. Je veux prier pour que ici, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont là où vous vous trouvez, je veux prier pour que vous entendiez l'appel du Seigneur en ce jour de la fête des Pères. Entendez l'appel du Seigneur, Jésus lui-même et le Père éternel qui dit « Je t'appelle à entrer dans l'intimité de ma communion et de vivre des face à face comme un homme parle à son ami. » C'est là où il nous invite. Il veut une réciprocité. C'est quand même fou. Face à face. Il n'est pas au-dessus. Il descend où tu es. Face à face. Et la Bible nous dit dans Corinthiens, la même image, hein, Moïse, il voit Dieu face à face, son visage se met à briller. Et il nous est dit, nous tous qui le visage découvert, nous ne faisons pas comme Moïse, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et dans cette invitation à l'intimité, de face à face, le Seigneur veut nous transformer. Alléluia. Il veut le faire parce qu'il veut que nous soyons ses vis-à-vis, dans un miroir qu'on voit exactement la même chose. Vis-à-vis, face à face, transformé. C'est une œuvre de transformation, de serviteur à ami, d'enfant à père, et lui ressembler complètement. Recevez cela dans cette journée. Recevez la puissance transformatrice alors que nous adorons le visage découvert, que nous le contemplons comme Moïse. Quelle grâce en Jésus d'être face à face. Alors, maintenant, je vais parler de Hallelon. On trouve cela 58 fois dans le Nouveau Testament. C'est un terme grec qui se traduit par mutuel, réciproque, les uns les autres. À chaque fois que vous allez trouver dans la parole mutuel, réciproque, c'est traduit en français, mais dans le grec, à chaque fois, c'est Hallelon. Et on le trouve évidemment dans le verset le plus connu sur ce sujet, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». C'est pas juste « Aimez-vous ». Il faut de la... Il n'y a pas d'amour sans réciprocité. Aimez-vous les uns les autres. En fait, dans les uns les autres, ça renvoie à la notion de sacerdoce universel. Je vais essayer de faire très court dans ce rappel de la réforme. Vous savez, au XVIe siècle, il y a eu la réforme. Quand il y a eu la réforme, ils ont traduit cette réforme en disant il y avait une organisation de prêtrise, mais très pyramidale, qui est remontée vers le pape. Et ils ont décrété, Luther... Et après Calvin, l'idée que le ministère n'était pas réservé qu'à un certain nombre de personnes. Le corps de Christ dans son ensemble est appelé au ministère. On appelle ça le sacerdoce universel. C'est-à-dire que ça n'appartient pas à un certain nombre. Le ministère, il est mutuel à l'intérieur de l'Église. Vous savez, je suis en train de me repentir en ce moment. Je vous prie de vraiment écouter ce que je suis en train de dire, c'est important, en disant, j'ai hérité, sans le vouloir, et une part j'y ai participé, à croire que ce n'est pas les uns les autres, mais c'est les pasteurs les autres. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons en vis-à-vis, qu'il y ait un ministère mutuel. Dès qu'il y a une caste, dès qu'il y a un clergé, dès qu'il y a des personnes qui sont détachées, ça produit quoi ? Il y a, allez, maximum 20% de l'Église qui sert 80% qui sont passifs, qui attendent. L'intention de Dieu, c'est que nous soyons des vis-à-vis, que nous nous aimions les uns les autres, que ce soit une dynamique de mutualité, de réciprocité. Sans réciprocité, l'Église ne peut pas briller comme Dieu veut qu'elle brille. Il nous faut grandir dans la réciprocité. Et que l'objectif des responsables, des fameux 80 qui servent, vous savez, il y a 20% qui servent 80% de l'Église, c'est connu dans le monde entier. On fait des statistiques dans le monde entier, on retrouve toujours 20% qui servent 80%. Ce n'est pas l'intention. Pourquoi l'Église ne brille pas ? C'est que ce n'est pas réciproque. Pourquoi l'impact de l'évangile n'arrive pas à avoir l'impact qu'il devrait avoir? Parce que ce n'est pas réciproque. Il nous faut rentrer dans une réforme pour dire c'est les uns les autres. Ce n'est pas simplement les pasteurs ou l'équipe, les responsables et les autres, parce que ça induit même en moi, un complexe de sauveur. C'est moi qui ai une onction, c'est moi qui ai une grâce, c'est moi qui ai une capacité pour aider les autres qui, eux, sans moi, ils peuvent pas s'en sortir. Je caricature un peu, mais des fois, on n'est pas loin de cette idée-là. Et les 80 placent sur un piédestal ou attendent des choses que les 20% ne peuvent pas donner. Et c'est dangereux de vouloir, même de le penser. Et c'est tellement inscrit en nous qu'on s'en rend même plus compte. Ce qui fait qu'on m'a dit, après le confinement, oui, alors on s'attendait, moi je l'ai traduit comme ça, on s'attendait que le pasteur appelle tous les membres de l'église. Et on m'a dit, dans une autre église, le pasteur a appelé, et pourtant c'est une grande église, hein, pendant le confinement, il a appelé tous les membres de l'église. J'ai dit, écoute, c'est pas ma philosophie de ministère. Je l'aurais voulu, hein, si j'avais pu, je l'aurais voulu. Mais je ne le veux pas parce que Dieu, la Bible dit les uns les autres. Vous avez loupé une occasion. Les uns les autres. C'est-à-dire, c'est une dynamique de réciprocité. Tu as quelque chose à donner. Dès que tu considères l'autre comme en capacité de te donner, ça change ton attitude dans ton rapport avec lui. Sinon, tu es au-dessus et tu viens aider. Avec ta cape, tu as une sorte de cape de Zorro, tu dégaines ton épée, tu déploies une énergie folle et les autres t'attendent, ils acclament. Le Zorro, il arrive. Le secours arrive au travers d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Non, tu as quelque chose à donner. Bien sûr, à un moment donné, tu as un enfant, tu as besoin d'être accompagné. Mais nous sommes en train de t'élever pour que tu deviennes un vis-à-vis. L'équipe est là pour t'équiper, pour que ce soit toi qui puisses faire. En fait, on va se retrouver avec le ministère pastoral, c'est l'église qui le manifeste. La formation, c'est l'église, les uns les autres. Et on va le voir tout à l'heure. Le service, c'est les uns les autres. En fait, c'est une réforme qui est profonde pour pouvoir grandir dans la capacité de dire, ce n'est pas juste les pasteurs les autres ou les responsables les autres, c'est les uns les autres. Et on va le voir assez rapidement. Je voudrais terminer ici, puis on va prier. On le voit pour l'hospitalité. Je vais citer rapidement des versets. J'espère que ça va parler en soi. Le côté positif des relations, exercer l'hospitalité, et on va dire ensemble les uns les autres, d'accord ? Exercer l'hospitalité. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Par honneur, usez de prévenance. Si vous pouvez le dire avec conviction, ce serait super. Ne nous jugeons pas. Accueillez-vous donc. Il y a du travail. C'est les uns les autres. Il n'y a pas ici une équipe de serviteurs qui font une prestation dans laquelle il y a un service d'accueil et puis les autres sont accueillis simplement. C'est à chaque fois les uns les autres. Il faut une réponse, il faut que ce soit réciproque. Si tu es accueilli, c'est pas ok, tiens, c'est sympa l'accueil ici, je note 7 sur 10, 8 sur 10. Non. Comment tu réagis quand on t'accueille ? C'est les uns les autres. C'est réciproque. Si on part sur le pardon, hein, il dit supportez-vous. Il dit pardonnez-vous. Confessez donc vos péchés. Priez-les. Alléluia, afin que vous soyez guéris. Ça veut dire que il y a une réciprocité. Sans réciprocité, il n'y a pas la dimension du ministère qui fait que chaque membre est en action envers l'autre. Chaque membre est en mouvement. Moi, je voudrais nous engager à considérer ce que Dieu a placé dans nos mains pour pouvoir y répondre. Je reçois quelque chose, quelque part, de quiconque, mais je décide de le donner. Je deviens proactif. Dans le service, ça nous donne rendez-vous serviteur. Rendez-vous serviteur les uns des autres. C'est-à-dire, ce n'est pas une équipe de service ici qui sert les autres. On décide les uns les autres de choisir d'être dans une attitude de service, mais de prendre une part quelque part dans ce qui revient. C'est mutuel. C'est-à-dire, oui, il y a une équipe de service, mais il devrait être là pour former toute l'église à servir. Pas pour le faire eux-mêmes, mais engager toute l'église et développer une culture, une mentalité, des attitudes où je réponds. En général, quand la culture est bonne, tu reçois quelque chose, ça déclenche l'idée d'y répondre. Il y a quelque chose qui doit être réformé dans nos mentalités pour qu'on ne reçoive plus sans répondre. Sinon, c'est de la consommation. Aimez-vous les uns les autres. Il n'est pas dit, soyez aimés les uns par les autres. Il est dit, aimez-vous. Donc, c'est à toi de faire une chose, de le déclencher et de répondre. Quelqu'un te demande, tu donnes. Et tu donnes et quelqu'un te répond. C'est la réciprocité dans le cadre de l'Église. Il y a des bénéfices qui sont énormes. Je vais juste citer en formation, on pourrait dire, oui, il y a des ministères qui forment. Mais il est dit ici, et juste après, j'en viens à des choses pratiques et on prie, mais que la parole de Christ, on est dans Colossiens 3:16, habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Ce n'est pas un ministère qui enseigne, qui a le micro, qui exhorte et qui enseigne, qui édifie les autres. Les uns les autres, ça ne prend pas juste une partie de l'église, c'est une dynamique. Donc on va donner les éléments, on va enseigner, mais pour qu'on puisse enseigner, s'instruire les uns les autres, et certainement que ça va demander la suite qui nous dit les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà, mais les uns les autres. Alors concrètement, je voudrais proposer qu'au niveau de l'Église, il y ait de plus en plus de maisons qui s'ouvrent pour vivre à l'Ellen. Et je vais demander à Nicolas de présenter une carte. Nous étions à 4 groupes dans l'Église, 4 groupes géographiques. Eh bien, on est déjà passé à 12 groupes géographiques. Je vous explique. Sur la carte de l'Hérault, on a voulu répartir une douzaine de groupes géographiques, et les personnes qui se sont inscrites là acceptent qu'on puisse les contacter par mail, par téléphone, pour pouvoir dire « je veux participer à un événement qui va être organisé chez toi. Je veux juste participer pour vivre à l'Ellon. » Ce qui manque dans l'église, quand on se retrouve ici, on se retrouve pour célébrer Dieu, mais ce n'est pas le lieu idéal pour vivre à l'Ellon, dans un culte, vous voyez ? On va créer ces espaces, pas simplement pour vivre des groupes, c'est l'idée de vivre à l'Ellon, c'est-à-dire dans cet espace, je vais donner, je vais recevoir, je vais grandir, je vais vivre, aimez-vous les uns les autres, je vais pouvoir partager quelque chose. Parce que je le partage, eh bien ça donne la capacité de grandir, d'être transformé, de vivre la victoire dont je parlais. Il y en a 12, ça se répartit de l'est à l'ouest, il y a le nord, il y a le sud, et vous pouvez vous inscrire. Mais je voudrais suggérer aujourd'hui que vous puissiez vous-même, en entendant ce message, contacter Romain, me contacter, un responsable de l'église, pour dire « je veux ouvrir ma maison ». Pour être un lieu où d'autres vont pouvoir venir pour pratiquer le Hallelon. Je vais donner, je vais recevoir, mais je ne vais pas être là pour être dans un complexe de sauveur envers les autres, mais je veux prendre l'initiative et avancer. Ouvrir mon cœur, ouvrir ma maison, mettre au service des autres le don que Dieu m'a donné. Ça implique que tu es l'Église. Tu es l'Église. On ne parle pas de l'Église comme quelque chose en dehors de toi. Tu es l'Église. Et ça te revient, tu es responsable, il y a quelque chose à faire. Je suis l'Église. Et on va développer cette mentalité ensemble. Amen. Amen. Je vous propose de vous lever. Je vais simplement prier. On veut ouvrir une saison dans notre vie d'Église où on veut vraiment accueillir cette dimension des uns des autres, d'une repentance, une mentalité qui se laisse toucher, réformer, pour que cela prenne place, que cette semence puisse germer au milieu de nous. Je crois que ça vient. Même ce workplace, cette application, va participer à vivre les uns les autres. On va donner, on va recevoir non seulement des nouvelles, mais on peut partager des ressources que nous avons, des choses les uns avec les autres. Alors Seigneur, ensemble, ce matin, nous nous tournons vers toi. Nous voulons être tes vis-à-vis, être transformés de gloire en gloire. Merci pour ton appel, ton accueil. Tu nous invites à rentrer dans l'intimité où on te voit face à face. Transforme-nous et envoie-nous, Seigneur, les uns vers les autres. Merci pour tous ceux qui vont prendre le temps ici de considérer le don qu'ils ont, la grâce que tu leur as faite, les ressources qu'ils ont et où on va enclencher. Je prie ce matin qu'on enclenche une dynamique les uns des autres. Qu'on passe de 20 à 30 à 40% des ressources jusqu'à ce qu'on vive un miracle. Ça n'est d'être une majorité de ceux qui donnent consciemment, intentionnellement, en disant « tu m'as commandé d'aimer ». Et je veux commencer à le faire. Je veux être proactif. Je veux prendre l'initiative. Je délie cela au milieu de nous et je te prie, Seigneur, qu'il y ait une assistance de l'esprit par une transformation mentale, transformation de cœur, une mise en mouvement. Je veux bénir toutes les maisons qui se sont déjà ouvertes. Je veux bénir toutes les maisons qui vont s'ouvrir. Je prie que le ciel soit ouvert. Alléluia. Que ce soit la maison de Dieu, la maison du Père, et que la bénédiction de Dieu accompagne toutes ces initiatives. Il y a une assistance d'en haut pour voir l'amour se déployer les uns les autres. Je prie cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen.